Bonjour à tous et bienvenue sur Microscience pour cette deuxième émission sur le plancton. Bonjour Marion.
Bonjour Jyoti. Un bref rappel de la définition du plancton, ça vous dit ? Il rassemble tous les organismes qui sont incapables de lutter contre le courant. Lors de la dernière émission, nous avions parlé des différents groupes constituant le plancton. Vous vous en souvenez, Jyoti ?
Alors, il y avait des bactéries, des virus, du zooplancton, et la star du jour, le phytoplancton. Et je me souviens aussi qu'on avait dit que pour acquérir son énergie, le phytoplancton fait de la photosynthèse. Mais la science dans tout ça !
Le phytoplancton représente l'ensemble des organismes du plancton, dit végétal, capables de réaliser la photosynthèse. Il englobe des cellules sans noyau, ce sont des bactéries photosynthétiques que l'on appelle cyanobactéries, et des unicellulaires à noyau qui comprennent des diatomées, dinoflagellés et coccolithophores. Alors vous allez me dire, Jyoti, c'est quoi la photosynthèse ? Pour vivre, le phytoplancton a besoin d'énergie. Pour cela, il capte la lumière du soleil grâce à la chlorophylle, il puise dans les sels minéraux dissous dans l'eau et absorbe du gaz carbonique. Ainsi, il produit le glucose dont il a besoin et rejette le dioxygène qui lui est inutile. Qu'est-ce qu'il y a, Jyoti ? Je vous vois trépigner sur votre siège.
C'est que j'ai envie de vous raconter une histoire.
Ben d'accord, mais il faut que vous fassiez le lien avec ce que je viens de dire. Et si vous nous racontiez l'histoire des premières cellules photosynthétiques ?
Moi qui voulais vous parler de Star Wars.
Il y a bien longtemps, dans notre galaxie, c'est-à-dire il y a 4,6 à 3,5 milliards d'années, la planète Terre était composée de masses rocheuses en fusion. Pour les fans, c'était un peu la planète volcanique Mustafar. Peu à peu, cette masse rocheuse en fusion s'est refroidie. C'est suite à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère et aux chutes de pluie diluviennes qu'un océan primordial s'est formé, permettant la naissance d'un plancton originel. Cet ancêtre des bactéries et des archées, dont nous parlerons dans une autre émission, était capable de vivre en milieu dépourvu d'oxygène, tirant son énergie des métaux, des gaz et de la chaleur. Mais, il y a environ 3,5 milliards d'années, les précurseurs du phytoplancton, les cyanobactéries, vont commencer leur activité de photosynthèse et vont venir tout chambouler. En fait, elles vont produire tellement d'oxygène que cela va modifier la composition de l'atmosphère et oxyder tout ce qui peut l'être sur la planète, comme le fer par exemple. Pour le coup, on peut imaginer que la planète ressemblait plutôt à Mars aujourd'hui. Et, il y a 2,4 milliards d'années, le taux d'oxygène est tel qu'une couche d'ozone commence à s'élaborer en surface. Beaucoup des bactéries qui ne supportent pas l'oxygène périssent alors, tandis que d'autres vont se réfugier au fond de l'océan, où elles ont continué à évoluer jusqu'à nos jours. Toujours est-il que l'oxygène commence à oxyder le méthane, un puissant gaz à effet de serre contenu dans l'atmosphère. Celui-ci est transformé en CO2 et sa diminution mène à la glaciation de la planète. Et là, c'est plutôt la planète hôte de l'épisode 5.
Vous avez pas fini avec Star Wars ?
Oui Marion, j'ai même quasiment fini la petite histoire.
Pendant des dizaines de millions d'années, le taux de CO2 dans l'atmosphère va augmenter, comprenant celui rejeté par les volcans. Les petites bactéries au fond de l'océan, qui s'étaient mises à l'abri de l'oxygène, vont continuer à produire du méthane. Peu à peu, la planète se réchauffe. C'est la fin de la glaciation. À partir de ce moment-là, de nouvelles formes de vie ont pu se développer, comme les diatomées par exemple.
Bon, ça va. Elle est pas si mal, cette histoire. On comprend donc que la production du dioxygène par le phytoplancton a eu un impact énorme sur la planète, et aujourd'hui encore, son rôle reste primordial. Comme l'écrit si bien Christian Sardet, parce que moi, j'adore son livre.
Ouais, moi aussi, mais des fois, il y a des photos, elles font peur.
Chaque respiration est un cadeau du plancton. En effet, le phytoplancton, en plus de produire la moitié, voire plus, de l'oxygène de la planète, absorbe d'énormes quantités de gaz carbonique, régulant ainsi la température et le climat. Mais son importance dans l'écosystème ne s'arrête pas là, puisqu'il est à la base de la chaîne alimentaire. Et oui, Jyoti, le zooplancton mange le phytoplancton, et ce zooplancton régale les poissons ainsi que d'autres animaux aquatiques avant que ces derniers ne soient dévorés par les grands prédateurs. Du coup, il suffit que l'un des premiers maillons de la chaîne soit affecté pour que toute la pyramide s'écroule.
Mais j'ai une petite question qui me chiffonne.
Sur le plancton ?
Oui, il vit où le phytoplancton ?
Dans l'eau ! Pour que la photosynthèse soit possible, le phytoplancton fréquente les régions superficielles du milieu aquatique où la lumière pénètre encore. Cette zone, appelée zone photique, est comprise entre 0 et 200 mètres de profondeur environ. C'est dans cette même zone que l'on peut observer parfois des efflorescences algales.
Ah, les fameux blooms, là.
Ah bah, vous connaissez ça ?
Bah oui, j'ai vu la vidéo de Tania de la chaîne Biologie Tout Compris, sur Emiliania Huxleyi. D'ailleurs, je trouve ça super ces blooms, parce que déjà, c'est joli, ça fait des colorations à la surface de l'eau, et si on arrive à voir le phytoplancton, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Et comme il est important, plus il y en a, mieux c'est, non ?
Alors attention, Jyoti. Effectivement, ces efflorescences algales apparaissent lorsqu'il y a de grandes concentrations de phytoplancton dans une région. D'après les scientifiques, généralement cela s'effectuerait dans les zones d'upwelling, c'est-à-dire où les eaux froides riches en minéraux remontent sous l'effet des vents et des courants. De ce fait, le phytoplancton avide des sels minéraux peut se développer aisément, ainsi que le zooplancton et toute la chaîne alimentaire. Alors oui, c'est une bonne chose, mais jusqu'à un certain point. Une telle prolifération entraîne parfois la dominance d'une espèce phytoplanctonique. L'eau peut alors devenir opaque et priver les espèces présentes, y compris le phytoplancton, de lumière et de nourriture, asphyxiant ainsi la zone concernée. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation.
En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je trophie de travail aujourd'hui, Marion.
Mais vous n'avez plus d'histoire ou de questions.
Oui, mais c'est pas encore fini, il y a les autres émissions. D'ailleurs, la prochaine, c'est le zooplancton. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'émission d'aujourd'hui, vous avez tous les liens et les photos juste en dessous du lecteur.
Bon bah merci à tous d'avoir suivi Microscience.
Ouais, et à très bientôt.